Bonjour à chacun, chacune. Voilà, il y a des réponses. Vous êtes en forme. Le sujet que j'ai choisi. Alors j'ai choisi, je ne sais pas si je choisis vraiment. En tout cas, j'espère à chaque fois être conduit, non pas par ma pensée, mais par la pensée de Dieu, à trouver ces sujets de message. Et il est venu assez naturellement après celui que je vous avais annoncé il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, par lequel nous étions saints. Vous vous en rappelez, ceux qui étaient là? Et donc c'est sur l'espérance. C'est bon? Non, c'est pas bon. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Parce que là, j'ai plus la maîtrise. Voilà, l'espérance. Et sur l'espérance, il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'angle que j'ai voulu prendre, c'est l'espérance telle une encre. Et nous en est parlé dans Hébreu. Et c'est vrai que ce mot, il est très, très vague. Et pour ma part, sûrement, j'avais besoin de certaines précisions. Et je l'espère que ça va vous amener quelques précisions aussi sur ce terme. Et quand on le prend comme ça, c'est est-ce que espérance, c'est la destination finale? Ou déjà, nous sommes en attente et c'est l'aujourd'hui qu'on vit? Ça doit aller maintenant. Oui, est-ce que c'est seulement la destination finale, notre espérance, ou est-ce que c'est déjà quelque chose qu'on vit aujourd'hui? Ça peut être aussi le changement de direction que nous avons connu à la nouvelle naissance, changement de cap, de valeur. C'est certain que nous avons été retournés et un virage à 180 degrés est arrivé dans notre vie, quoi. Mais c'est aussi ce qui nous aide à voir au-delà des montagnes, les montagnes que nous rencontrons dans notre vie. Il y a celles qu'on aime bien escalader, et puis il y a celles qu'on aime vraiment pas du tout trouver en face de nous, et qui semblent infranchissables. Et cette espérance qui voit au-delà de la montagne, au-delà de la difficulté, au-delà de la situation de crise dans laquelle nous pouvons être. Et donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté finalement il y a 15 jours, Éphésiens 1, donc du verset 15 à 23. Voilà. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Diapo suivante, si c'est possible. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Merci. Au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je dirais, il ne manque rien. il ne manque rien au plan du salut que le Seigneur a fait pour nous. Il a été jusqu'au bout. Et dans chacune de nos vies, on pourrait dire, peut-être que ça, le Seigneur ne le connaît pas, mais il est plus que suffisant dans toutes nos difficultés, dans toutes nos vies. Et c'est cette espérance, quand on lit ce passage d'Éphésiens, on voit qu'il y a une dimension qui nous dépasse complètement. C'est au-delà de la dimension de la réflexion d'un homme, c'est vraiment l'espérance que le Seigneur nous donne. Et on utilise le mot espoir, on utilise le mot espérance, mais il y a une différence entre les deux. Alors on peut parler d'espoir spirituel, c'est sûr, mais souvent quand on utilise le mot espoir, il est à la dimension humaine, à la dimension de nos propres forces. Et on a des espoirs, peut-être seulement dans nos capacités physiques, intellectuelles, capacités matérielles, voire la dimension morale dans laquelle on peut agir, quoi. Mais avec l'espérance, Dieu est là. Et ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est quel que soit là où nous en sommes, peut-être si nous avons chuté gravement, rien n'échappe à notre Dieu et l'espérance, elle est complète. Et si j'ai voulu utiliser cet angle de l'ancre, c'est parce que nous, maintenant, nous ne sommes plus seuls, nous sommes reliés à un autre monde qui n'est pas celui de cette terre, mais le monde céleste du Seigneur Jésus-Christ. Et donc avec l'espérance, Dieu est là, la pensée de Dieu devient présente dans notre cœur. Ecclésias 3:11, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et l'espérance, c'est cela, c'est cette graine qu'il a semée. Pour tout homme, il y a cette espérance qu'il y a l'éternité. Alors peut-être. Mais nous découvrons petit à petit, en tout cas quand le Seigneur nous touche, que cette espérance, elle est vraie. Et sans espoir, c'est facile, c'est le désespoir. Et le désespoir peut conduire à des choses dramatiques. Mais sans espérance, c'est encore plus grave parce que c'est un état de désespérance. Je ne crois pas qu'il y ait plus profond que ça, plus difficile à vivre qu'un état de désespérance. C'est-à-dire que même Dieu ne peut plus rien faire. Mais ce n'est pas le cas. Il y a bien cette ancre qui nous relie au Seigneur et nous ne serons jamais seuls. Et sans espérance, c'est vivre sans vie. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Et donc, je vous ai mis 1 Corinthiens 15, donc versets 19 et 20, dans la version Parole vivante. Si pour nous, la communion avec le Christ n'avait été rien de plus qu'un espoir placé en lui durant cette vie et pour la vie présente, espoir chimérique, que la mort ferait évanouir, nous serions les plus à plaindre parmi les hommes. Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts. Nous l'avons plusieurs fois proclamé ce matin. Il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. Amen. Il est le précurseur en toutes choses pour nous. Celui qui est passé avant nous. Et 2 Timothée 1 nous dit aussi, car je sais en qui j'ai cru, Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, amen. Mais l'espérance est une attente sûre, qu'on n'a pas encore vue, c'est certain. Romains 8, 24, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Nous sommes dans un état d'attente, c'est sûr, de quelque chose que nous n'avons pas vu, mais de quelque chose qui est écrit dans nos cœurs. Notre désespoir nous a conduit à saisir l'espérance en Christ. C'est bien souvent ça qui nous a conduit une première fois à Christ et qui nous ramène, épreuve après épreuve, à rechercher la présence du Seigneur, à rechercher une nouvelle expérience peut-être. Mais en tout cas, on a dit, Seigneur, ce n'est pas suffisant, je veux te connaître au-delà de tout cela. Et c'est une espérance qui est établie sur la parole. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La patience, la consolation que donnent les Écritures. Nous avons un trésor dans ce livre que nous recherchons de façon différente les uns des autres, dans des étapes parfois vraiment différentes. C'est sûr que certains ont commencé à lire la Bible par la Genèse, ça n'a pas été mon cas. Et on peut renoncer quelquefois dans la difficulté de comprendre ce qu'il y a dans la parole. Mais ce que je sais, année après année, c'est que petit à petit, tout ce livre s'assemble devant mes yeux. C'est que la compréhension que je n'avais pas, et que je n'ai toujours pas, parce que là, je suis loin du compte, c'est vraiment ce puzzle qui vient se compléter année après année. Et je pourrais dire même jour après jour, certaines fois. Et ce livre, il est certifié par le Saint-Esprit, Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Les deux sont à l'œuvre. Nous avons absolument besoin de l'éclairage du Saint-Esprit pour... Alors, ce n'est pas comprendre forcément comme d'autres ont compris. Ce qui est formidable avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est à notre, pas à notre dimension, parce qu'il est bien au-dessus de ça, mais adapté à ce que nous vivons. Et les mots qu'il nous donne sont des mots qui conviennent à notre vie personnelle. Et donc Hébreux 6, où il est parlé de cet encre. Donc versets 11 à 20. « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. » C'est souvent répété, hein, d'entretenir l'espérance. Et je vous ai dit au début, pas d'espoir, désespoir, pas d'espérance, désespérance. Il y a un enjeu qui est extraordinaire. Il y a un enjeu qui est dans cette vision de l'espérance, dans cette compréhension de l'espérance qui est vitale dans nos vies de chrétiens. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment, afin que par deux actes immuables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Ce refuge, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide pour notre âme. Pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité et selon l'ordre de Melchisédek. Cette ancre sûre et solide pour notre âme. Qui a besoin de connaître l'espérance? Quelle partie de notre être? Notre âme, là où il y a les raisonnements, là où il y a les pensées. Et dans toute l'œuvre de sanctification, il y a la sanctification de nos pensées. C'est-à-dire nos pensées alignées sur les pensées de Dieu. Et cette ancre solide et ferme est passée au-delà du voile. Et qui est passé au-delà du voile, si ce n'est Jésus-Christ? C'est lui qui a posé cette ancre afin que chacun d'entre nous, nous soyons reliés dans un lien qu'il est impossible de briser. Alors c'est sûr. Alors là, c'est difficile de voir. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je voyais très bien devant mon ordi. Et donc, l'encre, il y a des gens qui sont très doués pour faire ce genre de choses. Elle a une forme de croix, parce qu'effectivement, c'est à la croix que Jésus a accompli toute cette œuvre. Et cette croix, elle est plantée au-delà du voile. C'est une encre ferme, et on verra plus loin à quoi elle sert, mais qu'il est impossible, maintenant, de renverser, de briser, de décrocher, elle est bien au-delà du voile. Là, c'est plus clair. Comme une encre solide et ferme. Et donc, l'encre, quand on va chercher un petit peu à quoi ça sert, il est indiqué deux fonctions. Une qui est une fonction de sécurité pour arrimer le bateau. Et l'autre qui est une fonction de confort. Oui, amen, Seigneur. Nous avons besoin d'être confortables en toi. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que notre bateau est bien arrimé. Et donc j'ai été chercher un peu plus loin. Alors là, c'est Wikipédia, hein, parce que je ne suis pas marin, vous le saviez. Je suis plutôt les deux pieds sur la terre, hein. Un ancrage fonctionne en s'opposant à la force exercée par le navire qui est relié. Cela s'effectue de deux manières, soit par la masse d'un corps très lourd, donc le poids que fait l'ancre, ou enfoui sur les fonds marins, ou par pénétration ou accrochage dans les fonds marins. Ça explique pourquoi ces crochets différents, il y a un tas de formes suivant le type de bateau qui doit être arrimé. Et donc, c'est pour résister aux vagues, surtout au vent et au courant. Et les ancres sont conçues pour pénétrer profondément et de plus en plus profondément et résister à l'ensemble de ses forces. Et bien sûr, ça m'a parlé des tempêtes de nos vies, où l'ancre au lieu d'être, de suivre le bateau, elle, elle se plante pour retenir. Et on s'accroche de plus en plus fortement. Et la tempête, elle renforce le lien entre ces deux mondes. Le monde où nous vivons et le monde où le Seigneur est sur son trône, au-delà du voile. Il est entré pour nous. Et ces deux mondes se rapprochent. Nous nous rapprochons de Dieu. Et bien sûr, notre intimité, notre confiance avec le Seigneur, elle grandit. Mais ça nous parle aussi de la persévérance, bien sûr. Romains 5, 3. Bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Et on comprend un petit peu mieux ce type de comparaison, cette encre, pourquoi elle est là. Et moi, j'aime visualiser les choses. Quelqu'un de concret, donc j'aime voir les choses. Quand je vois devant moi ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a annoncé, donc parlait sans doute à des marins, à des gens qui connaissaient la mer, et voulait leur dire que vraiment, c'était un lien indéfectible. Un lien entre nous, qui sont sur cette terre encore, vivant des moments d'épreuve ou non, ou d'épreuve et de calme, et de calme et d'épreuve. Et alors, ce qui était drôle, en lisant ce fameux Wikipédia, c'est qu'il y a l'encre de miséricorde. Vous aviez entendu parler de ça ? Alors là, ce n'est pas une invention. C'est celle qui se stocke au pied du grand mât. C'est la plus forte ancre du bateau que l'on n'utilise que dans les cas graves. L'ancre de miséricorde. Je ne l'ai pas inventée. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu as prévu des choses. Et des hommes avant nous ont pensé, bien sûr, à cet exemple qui a été donné. Et quand nous crions à Dieu, comme les disciples dans la barque qui ont dit « Maître, maître, nous périssons !»« Tu ne vois pas, Seigneur ?» Le Seigneur a calmé la tempête. On doit se rappeler de ça, que sur notre bateau, même si ça tangue, même si ça, l'eau commence à rentrer dans la barque, il y a une ancre de miséricorde. Notre cri, notre prière est entendue. Et ça me démontre de plus en plus la fidélité de Dieu, mais sa grâce infinie, où il n'y a que lui qui peut intervenir. Et la grâce n'est pas au prix de quelque chose que nous aurions fait, puisque si j'ai bien compris, la grâce, elle est gratuite. Mais c'est aussi pour nous détacher quelquefois des culpabilités qu'il y a. Mais c'est parce que tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça. Et cette grâce, elle est malgré nos oreilles qui n'entendent pas, malgré notre cœur endurci. L'ancre de miséricorde, elle est là pour des passagers sur le bateau qui sont en péril. Si tout allait bien, parce que dans certains cas, on dit, tout va bien et les gens n'ont pas besoin du Seigneur. Et alors, quelquefois, on peut se dire ça. Mais nous-mêmes, chrétiens, moi, pour ma vie, c'est certain que si tout allait bien, je n'aurais pas la même relation avec le Seigneur. Il y a des choses qui sont venues dans ma vie qui ne seraient pas là. Chaque épreuve, chaque persévérance qu'il a mis dans mon cœur petit à petit apporter quelque chose. Et l'encre de miséricorde, elle a servi. Alors, une autre illustration. Je ne sais pas si vous connaissez la ligne de vie. Bon, déjà, vous avez peut-être fait de l'acrobranche. Non ? Bon, c'était le plus facile. Vous êtes monté sur des toits, peut-être ? Non ? Non plus ? Bon, ben, je ne vais pas plus loin, alors. Mais, pardon. Alors, si vous le voyez bien, le pointeur, c'est ça ? Là, il y a un câble qui est tendu d'un endroit à l'autre. Donc, c'est un homme qui travaille en hauteur. Hein. Et là, il a donc son harnais et puis un lien donc, qui est accroché à la ligne de vie. Donc, ça existe pour le travail, quand on travaille dans des situations dangereuses et en hauteur. Et donc, il y a des gens qui viennent installer des lignes de vie pour que les gens puissent travailler en sécurité. Que, bon... Si quelque chose arrive, il ne tombe pas. Là, je ne sais pas, bon, 7, 8 mètres, 10 mètres, je ne sais pas. Et donc, cette ligne de vie, c'est une autre illustration de l'ancre. C'est que nous sommes accrochés à cette ligne de vie que le Seigneur nous a donnée. Et cette ligne de vie, elle a été installée pour notre propre vie, là où nous vivons, et nous avons besoin. Nous le disons, mais est-ce que nous le vivons toujours ? D'une seule chose, d'être attaché au Seigneur, accroché. Et les problèmes viennent bien souvent quand nous nous sommes éloignés, donc c'est-à-dire nous avons décroché notre harnais, et puis nous dit, bon, je peux faire tout seul maintenant. Situation d'indépendance qu'on a repris, et nous pouvons rencontrer une difficulté, et là, on se dit, ma ligne de vie. Et dans le passage d'Hébreu, et dans d'autres endroits, il est parlé de précurseur, celui qui passait avant nous. Précurseur, c'est le premier. Et le Seigneur a installé cette ligne de vie pour nous. Mais pas pour que nous nous détachions. Quand nous avons connu le Seigneur, nous avons enclenché notre harnais, nous l'avons attaché à la ligne de vie. Et cette ligne de vie doit toujours être attachée. Et le Seigneur l'a attachée dans un monde que nous ne connaissons pas encore, mais que nous connaîtrons, et nous a reliés à ce monde où il a tout accompli, où il a payé le prix parfait. C'est-à-dire que ce que Jésus a vécu et vit, nous devrions être dans la même pensée que lui, précurseur en toutes choses. Je vais revenir sur 1 Pierre 1 que je vous avais cité aussi. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Une espérance vivante. Espérance vivante, ça veut dire qu'elle n'est pas rangée dans un coffre. Jésus n'a pas dit, tout est accompli, je range ma mission dans un coin. L'espérance vivante, c'est qu'elle est transmise à ses enfants, à tous ceux qui se confient en lui. Ça, c'est une espérance vivante. Pour un héritage, je continue, qui ne peut ni se corrompre, vous m'écoutez bien, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors écoutez ça, vous en tressaillez d'allégresse, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui, vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Recherchons vraiment d'être saisis par le Seigneur, par cette joie intérieure, pour dire « oui Seigneur, je suis à toi ». La barque prend l'eau, peut-être, mais tu es dans la barque. Et nous avons un nouveau regard sur la vie, contre le désespoir et le cynisme. Nous prenons le regard de Dieu. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens dans mon entourage très proche qui me disent que j'ai des lunettes roses. Vous voyez bien que je n'ai pas des lunettes roses. Bon, les verts sont peut-être roses. Ils ne sont pas roses. Mais ce qui est important, c'est de prendre le regard de Dieu. Parce que c'est vrai que si nous prenons le regard de cette société, c'est-à-dire vous allumez la télé, par exemple, vous regardez les informations. Moi, je n'ai pas besoin de prendre des cachets après, hein, mais parce que ça n'atteint pas ou je ne poursuis pas là-dedans. Et je m'excuse pour avoir dit ça, mais je veux dire que ce n'est pas la question de prendre des cachets, mais besoin d'avoir un traitement contre ça, puisque le Seigneur m'a délivré aussi, et comme il peut faire pour chacun, de ce désespoir, de ce cynisme. Parce qu'on peut être très, très, très pessimiste et conduit au désespoir quand on s'alimente d'informations mauvaises. Hébreux 6, 18 nous dit, afin que nous ayons un puissant encouragement. Nous, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et la saisir de plus en plus, cette espérance, et de la comprendre, quelle dimension est là, où elle est ancrée, où elle est plantée. Les choses anciennes sont passées, et je pourrais dire les pensées anciennes devraient être passées aussi. Et nous nous accrochons à la vérité que le Seigneur met dans notre cœur de plus en plus et nous donne cette force, et donne la force à cette ligne de vie, donne cette force à cette ancre. Et l'espérance regarde ailleurs que dans le naturel, dans le quotidien du monde. Et c'est vrai que nous avons des tristesses régulièrement quand nous voyons, bon, que ce soit les informations, nous apprenons des nouvelles, qu'elles soient dans le monde économique, dans le monde politique, dans l'écologie, nous voyons ces choses et nous pouvons être attristés, et je suis attristé. Et est-ce que ça nous laisse sans force? Ça ne nous laisse pas sans force parce que nous savons que, bien sûr, l'homme s'est perdu en étant séparé de Dieu, ayant pris son indépendance et voulant la garder, pensant être libre de faire sans Dieu. Et bien souvent, il ne voit pas que les choses s'aggravent de plus en plus. Et j'ai retrouvé dans Parole vivante, Romains 8, quand j'ai lu ça, je dis c'est vraiment excellent ça. la traduction de parole vivante, je vous ai mis, c'est vraiment l'écologie théologique, parce qu'il y a vraiment une... On se dit, ça a été écrit au 1er siècle, et ça pourrait être écrit aujourd'hui. Ça ne vous étonne pas trop. Mais en tout cas, ça pourrait paraître dans un journal aujourd'hui. Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses, contre son gré, sans aucune faute de sa part. Mais par solidarité avec celui qui a failli, elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort. La tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront et elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent un profond gémissement monte de la création, oui tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Ils ne sont pas les seuls. Nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes et nous vivons dans une certaine tension. Car nous avons non seulement reçu l'Esprit divin comme un acompte, ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire future. Aussi attendons-nous avec patience à être établis de plein droit fils adoptif de Dieu. Cette condition de vrai fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la transformation de notre corps. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Mais qui dit espérance dit attente. Espérer s'oppose donc à posséder, à voir. En effet, ce que je vois réalisé, ai-je encore besoin de l'espérer ? Espérer, c'est se porter vers l'invisible. Et nous attendons la réalisation de nos espérances avec la patience qui persévère en toute confiance. C'est vrai que c'est un état des lieux de la création qui souffre par le péché de l'homme. Et cette version de parole vivante, quelquefois, est plus explicite pour que nous comprenions ce qu'on peut ressentir nous-mêmes, ce que le monde ressent. Et une fausse espérance, elle conduit au désespoir, c'est-à-dire un mensonge devant nous, un mensonge qu'on a accepté à un moment donné, mais aussi de voir ce monde et de se battre pour ce monde qui est déchu, et aussi une tromperie. Et ça nous conduit au désespoir. Et quand on... Nous lisons ce que Salomon a écrit dans Ecclésiaste. C'est désespérant, je vous lis ça rapidement, Ecclésiaste 2, 17. J'ai donc haï la vie, car pour moi l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï toute la peine que je me donne sous le soleil et que je dois laisser, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Ecclésiaste 4, versets 1 et 2. J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés et personne pour les consoler. La force est du côté de leur oppresseur et personne pour le consoler. Moi je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. C'est désespérant. Et pourtant Salomon était quelqu'un qui avait vécu, on peut dire, dans l'opulence, dans la richesse, dans les plaisirs, comme personne d'entre nous n'avons connu ça. Donc ne nous laissons pas gagner par le désespoir de ce monde. Le casque de l'espérance du salut. Là, c'est un passage de 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Le casque de l'espérance du salut. Et bien sûr, le casque, il est sur notre tête et vient protéger nos pensées. Et nous voulons que ce casque, il filtre aussi toute pensée hostile aux pensées de Dieu. Pour recevoir seulement les pensées de Dieu, pas seulement, et pas des pensées de peur et de désespoir. Hébreux 11.1, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, elle s'alimente, elle provient de l'espérance, et de ce fait, voit à travers notre espérance. Elle découle, la foi découle de l'espérance que nous avons reçue. La foi a pour l'inspiration l'espérance. Et c'est vrai qu'on pourrait dire petite espérance, petite foi, ou grande espérance, grande foi. Et c'est vrai que si on se projette dans le futur, comment nous voyons notre futur? On a déjà une petite idée de quelle est notre espérance. Et là encore, nous avons besoin de tenir à cette ligne de vie. Jésus, sur cette terre, on peut dire qu'il avait cette ligne de vie. Jamais il ne lâchait la main du Père. Jamais il n'allait chercher le conseil chez quelqu'un d'autre. Jean 5, 19, Jésus leur répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. » Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Il n'a pas décroché un seul instant le harnais de sécurité, bien qu'il soit Jésus, le Fils de Dieu. Une dépendance parfaite, une obéissance parfaite, un salut parfait pour nous. Il est notre précurseur. Amen. Et bien sûr, quand Jésus avait dit ça, il avait fait bondir les religieux de l'époque qui ne comprenaient rien à ce langage. Et nous-mêmes, dans nos épreuves, si nous disons nous nous confions en Jésus, les gens ne nous comprennent pas forcément. L'importance n'est pas là. C'est que nous, accrochés à cette ligne de vie, toujours dépendant de cette ancre plantée dans, que ce soit dans les rochers, que ce soit dans le sable profondément, nous continuons notre cheminement. Compliqué, difficile, hostile par moments. Et je me rappelle cette interprétation du bon grain et de l'ivraie qu'avait donné Steve Wilson à Grenoble à la dernière pastorale, donc en mars. Et il parlait de ce passage. Il est dit, voilà, je retrouve, oui. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, c'est-à-dire le bon grain et l'ivraie. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aggravement des problèmes dans le monde, ça c'est certain. C'est des choses qui prennent des dimensions que nous n'avions pas connues, des choses qui échappent aux décideurs. Donc vous pourrez dire, l'ivraie grandit. Oui, elle grandit. Mais le bon grain grandit aussi. Et ça, nous ne savons pas assez le dire. Les moyens qui ont été donnés à cette époque ont permis à la parole de Dieu d'être envoyée par toute la terre. Cette parole étant vivante, elle produit quelque chose. Si c'était une parole inerte, morte, elle ne produirait rien. Mais la parole qui est annoncée aux quatre coins du monde, elle germe et elle grandit. Et il y a de plus en plus de chrétiens dans tous les endroits du monde. Et malgré la persécution, malgré l'opposition. Donc, quelle que soit la situation, mes amis, nous n'avons rien à lâcher, surtout pas. Les choses avancent, mais voyons, à travers aussi cette parabole, que l'Église du Seigneur grandit, en tout cas que le Seigneur, ce qu'il a annoncé, va se produire. Ah, et bien j'ai fini. Et à travers cet exemple de l'encre, je voulais juste vous partager la force de l'attachement qui nous lie au Seigneur. Nous pouvons être désespérés de nous-mêmes, ça c'est certain. Ça nous arrive régulièrement. Et nous pouvons être découragés. Mais je vous le répète, cette encre, cette ligne de vie, ce n'est pas nous qui l'avons installée. C'est le Seigneur qui l'a installée. Nous sommes arrimés, chacun de nous. Chacun de nous, chacune de nos petites embarcations légères et fragiles est arrimée afin qu'elle ne dérive pas, afin qu'elle n'aille pas se briser contre les rochers. Et l'ancre se fortifie, c'est vrai, au fil des épreuves, des temps qui se passent. Et de plus en plus, ça nous permet de regarder devant nous, malgré l'épreuve, de regarder au-delà de la montagne. Que peut-être la montagne, elle est là, bien plantée, nous obscurcissant le champ de vue. Peut-être qu'il y a des nuages encore dessus, peut-être qu'il y a du mauvais temps. Mais derrière cette montagne, derrière le mauvais temps, notre espérance, elle est accrochée fermement. Et nous voulons tenir jusqu'au bout. Et je dirais que c'est inutile de regarder en arrière aussi. C'est que nous avons mal fait avant d'être chrétien ou depuis. Parce qu'à chaque fois, le passé nous condamne, nous accuse, nous juge. Mais l'espérance en Christ s'est entrée déjà dans les réalités du royaume de Dieu. Là où le Seigneur fait au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer, espérer. Amen.